Une histoire se raconte en commençant par le début. Alors pour parler de Gaël Faye, je dois d'abord parler de Ben Mazoué. Et pour parler de Ben Mazoué, je dois d'abord parler de Pauline Croze. Pauline Croze est une chanteuse que j'ai déjà citée dans le premier épisode du podcast. Pauline, j'ai dû la découvrir en 2010 ou peut-être même avant, mais je n'ai pas de souvenir précis sur le pourquoi du comment. Peut-être l'ai-je découverte à travers les tonnes de covers de Thébaud, titre que je n'écoute jamais tant il a été repris et fait partie des chansons cultes de nos années 2000. Je n'écoute que rarement les singles qui passent en radio des artistes que j'écoute le plus, préférant choisir mes pépites à moi. Je me souviens particulièrement avoir écouté la reprise de Thébaud par Anaïs Delva sur MySpace à l'époque. Je viens de faire une recherche sur ce titre. Je ne retrouve pas la version d'Anaïs, mais je découvre avec surprise que cette chanson a été écrite suite au suicide d'un ami de Pauline Croze. Je l'ignorais et je ne voyais pas ses paroles de cette manière, me faisant ma propre interprétation. Je l'écouterai autrement à présent. À l'époque, je possédais quelques albums que j'exposais dans ma chambre. Je chérissais ceux de la Star Academy, du Roi Soleil, de Rose et de Renan Luce. J'étais ado et je passais des après-midi entières sur Internet. Je discutais sur MSN, j'écoutais de la musique sur YouTube, je créais des blogs et des forums de discussion sur mes artistes de comédie musicale préférés. Et durant une période, je téléchargeais de la musique. Tout le monde faisait ça. C'était la révolution du vol virtuel. Et j'étais trop jeune pour comprendre le problème. Je me souviens avoir téléchargé quelques titres de Pauline Croze pour remplir mon lecteur MP4. J'ai alors découvert la chanson « C'est léger », un duo avec Ben Mazoué. Voilà, on y vient. En pleine adolescence, j'ai adoré ce titre qui parle de la candeur des débuts d'une relation.
Ça fait mal à porter les années alors que les mois sont doux.
Prends du temps pour moi, passe tes nuits sous mon toit.
En ce moment,
j'ai envie qu'on se voit. En ce moment, on s'entend, on se sent, on se connaît depuis peu, depuis 2-3 mois. C'est léger.
J'ai adoré ce duo, les paroles et la voix de Ben Mazoué. À ce moment-là, je cherche à en entendre plus, et je pique alors 2-3 titres de Ben dans une qualité merdique sur YouTube. Mes monuments étaient trop près, me font un effet sans pareil. À ce moment-là, mes monuments sonnent pour moi comme l'hymne de ma vie. Je l'écoute en boucle, et pourtant, tout ne me parle pas, mais une chanson qui retrace une vie, entourée de la famille qu'on se choisit, m'enchantait. Un texte qui m'a suivi toute mon adolescence. J'enviais l'histoire de cette chanson et aspirais à la vivre.
On va se marier à les regarder, on va se marier à les faire pousser, c'est vu. Famille et potes à mesure, moi j'ai tout confondu.
Dans mon lecteur MP4, il y a encore ma playlist d'ado où j'ai retrouvé des titres live de Ben qui ne sont aujourd'hui dans aucun album. J'ai écouté Ben sûrement pendant quelques années, mais sans jamais me dire « Va découvrir le reste, un album entier par exemple ». Non, j'en suis restée là, à écouter quelques chansons mal enregistrées dans la fosse de salle de concert. Mais bien plus tard, je me pris de nouveau un coup au cœur, en 2017, à la sortie de l'album « La femme idéale », où je redécouvre totalement Ben Mazoué. Grosse claque que je me suis prise. Je ne sais plus comment Ben est revenu à moi. Je crois qu'il était beaucoup publicité par d'autres artistes sur Instagram. « La femme idéale » est un album absolument superbe qui a redémarré de plus belle, voire pour toujours, mon histoire avec la musique de Ben. Très vite, en me promenant à la Fnac, j'ai trouvé ses premiers albums et j'ai alors saigné toute sa discographie. Ben a dû un jour faire une story pour annoncer la sortie d'un podcast auquel il avait participé. C'était soit un épisode de Histoire de Daron avec Fab Florent, soit l'épisode de À bientôt de te revoir avec Sophie-Marie Larouy. Je ne connaissais pas trop le format podcast et je sais que j'ai commencé à accrocher grâce aux participations de Ben. Je peux l'écouter parler pendant des heures, admirant ses valeurs, son parler, sa simplicité. Ça n'a fait qu'amplifier mon amour pour cet artiste. Si vraiment quelqu'un me parle beaucoup et me touche, je ne vais plus en démordre. Alors Ben, oui, quoi qu'il fasse, je m'y intéresse. Même si c'est pour l'entendre parler frangipane et cake aux fruits avec Sophie-Marie Laroui. Même si ado, j'avais fini par oublier Ben, aujourd'hui, et depuis 2017, je ne me vois pas faire à nouveau l'impasse sur cet artiste, qui fait désormais partie de mon top, si ce n'est même qu'il est peut-être le premier des premiers. Ben ne fait que monter depuis, jusqu'à remporter une victoire de la musique tant méritée. J'étais très émue qu'il puisse être reconnu par son superbe travail. Ben surfe alors sur la vague et enchaîne les concerts dans des salles de plus en plus grandes, jusqu'à faire cette année une tournée des Zéniths. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de le voir dans une petite salle. J'aurais tant aimé. J'étais presque déçue, pour moi, pas pour lui, de prendre un ticket dans une grande salle froide qu'est un Zénith, un lieu si peu propice à Ben, je trouve. Évidemment, j'ai bien fait quand même. Le voir enfin en live était un grand moment. L'émotion est montée petit à petit et j'ai passé la deuxième partie du concert à pleurer quasiment tout le temps. Il paraît que c'est l'effet que ça fait sur beaucoup de personnes. Merci Ben pour tes textes et tes interprétations. C'est si fort, si parlant. L'histoire continue toujours plus grande pour Ben, qui cette année parlait beaucoup de Gaël Faye et Grand Corps Malade dans ses stories. Certes, Grand Corps Malade, je connais un peu. Gaël Faye, je ne connais pas du tout. Ben annonce alors la sortie d'un mini-album à trois, mêlant leurs plumes et leurs voix pour 7 titres inédits. Le jour même de la sortie, je m'en vais faire mes courses et à peine je rentre dans une grande surface que se trouve face à moi une énorme pancarte cartonnée avec la cover de l'album en noir et blanc et leurs 3 noms. Aussitôt, je craque et je vais voir en vrai l'album dans le magasin et accessoirement, voir aussi le prix. Je m'empêche de trop réfléchir et je ressors avec le CD. Ému, comme rarement quand je m'achète un CD, et le cœur haut. De retour dans la voiture, j'enlève le plastique autour avec frénésie et je l'écoute sur mon trajet du retour. Je trouve le projet génial. Je reconnais parfaitement Ben dans cet exercice et ça me rassure. Un projet partagé aurait pu faire perdre l'essence de pourquoi son écriture me parle autant. Chaque chanson est géniale. Je n'ai pas d'autres mots. Je découvre la voix de Gaël Faye. Il a un super flow et un grain que j'aime bien. Je redécouvre Grand Corps Malade et je reconnais dans les textes de Ben Mazoué plein de références à sa vie. Je m'arrête toujours de respirer au moment où il lâche. Je sais un peu la mort, je peux en parler, j'ai vécu quelques trucs. Mais les punchlines qui me font mouche, dans lesquelles je me reconnais le mieux, sont surtout celles chantées par Gaël Faye. Ce trio est dément. Ça marche du feu de Dieu. La musique est entraînante ou vibrante, les thèmes des chansons sont percutants. La cause me fait un bien fou à entendre, dans ce moment de flou où je réfléchis justement à oui ou non, est-ce que je me lance dans ce foutu podcast, qui suis-je pour prendre la parole et l'imposer au monde? Il y a aussi Tailler la route qui reste en tête, et on aime la chanter à la maison avec un sourire béat. On sait que oui, après l'avoir écouté, on n'arrivera pas à se l'enlever de la tête, mais c'est à la fois énervant et enivrant que d'entendre dans sa tête en boucle les... Dans la soirée, je mets en fond Gaël Faye pendant une partie de jeu de société, curieuse d'en découvrir plus sur cet artiste du trio qui m'interpelle. Mon mec me dit une fois la partie finie, Gaël Faye, bof. Moi je dis, oh non, ça va, j'aime bien, mais sans plus. En vrai, l'un et l'autre, on n'avait rien entendu, ni vraiment la musique, encore moins de quoi il parlait. Rien pour s'en faire une réelle opinion. Quelques semaines plus tard, je rentre dans une librairie. J'ai une pile de livres à lire, chez moi, mais j'ai envie d'autre chose. Je ne sais pas quoi, mais j'ai envie de repartir avec un roman, plutôt qu'un livre fantastique, comme j'ai plutôt l'habitude de lire. Je lis des dizaines de quatrièmes de couverture. Il y a le nouveau roman d'Olivia Ruiz, il y a le nouveau des Pentes, il y a des Martin Lugan, mais non. Je vois alors une couverture jaune pétante. Gaël Faye, Petit pays. Prix Goncourt des lycéens. Sur la quatrième de couverture, il y a un résumé et quelques critiques, ou plutôt quelques éloges, qui sont là pour donner envie au lecteur. Une phrase en particulier m'interpelle, celle qui me fera choisir ce roman. Gaël Faye raconte formidablement bien. Il nous fait rentrer dans un univers comme d'autres n'y étaient pas parvenus jusqu'à présent. C'est ce que je recherche. Quelqu'un qui sait particulièrement bien manier les mots et qui sache me faire rentrer dans son univers. Sur la quatrième de couverture est de nouveau inscrit Prix Goncourt des lycéens, ainsi que Prix du roman Fnac, mais aussi Prix du premier roman. Beau palmarès. J'apprends donc que c'est son premier roman. Et cela m'intéresse qu'il ait été choisi par les lycéens comme le vainqueur. En rentrant à la maison, j'entame très vite ma lecture. Et depuis, le livre me suit partout. À l'heure où je commence l'écriture de ce récit, j'en suis à l'exacte moitié. Je sens que je suis à l'orée du renversement dans l'histoire. Le résumé, sur la quatrième de couverture, utilise des mots très forts. Il parle de déchirement, de douleur qui ne nous quitte jamais, de hantise, de violence et de drame. Mais pour le moment, j'en suis au récit d'un petit garçon qui vit son enfance, non sans détour, avec ses premières déceptions, quelques craintes, hontes et questions assez mûres pour un enfant de 10 ans, certes, mais une enfance plutôt douce, mouvementée d'aventures dans un coin de paradis. C'est Gaël, ou plutôt Gabriel, qui nous conte son histoire de son point de vue d'enfant de 10 ans, en commençant par la séparation de ses parents. L'histoire se passe en Afrique de l'Est, au Burundi. Gabriel vit dans une maison paisible avec son père, sa sœur Anna et leur domestique. Gabriel est un enfant d'un père blanc et d'une mère rwandaise, réfugiée au Burundi. On suit les histoires de ce petit garçon entouré de sa bande de copains, et leurs aventures cocasses, mais marquantes, passant d'une circoncision terrible à une course-poursuite haletante après le vol de son vélo. Ce sont des histoires non sans morale, de celles que l'on garde enfouies en soi pour toujours. Des histoires de regrets, des hontes d'enfants, des maux qui vous poursuivent toute une vie. Puis doucement, arrive la guerre, qui impacte ses proches qui partent au front. Gabriel, encore à l'abri, décrit la vie dans son impasse, qui me rappelle mes souvenirs d'enfance similaires, pourtant en France, moi-même au même âge, ayant grandi entouré d'autres enfants de mon âge, dans une impasse. Le jour où je débute ce texte, j'ai lu le chapitre de la fête d'anniversaire de Gabi pour ses 11 ans, ainsi que du jour où les Burundais ont pu voter pour la première fois. J'en suis là, et le bouleversement du récit arrive, c'est certain. Je me permets de te lire quelques extraits qui m'ont touchée. C'était un matin comme un autre. Le coq qui chante. Le chien qui se gratte derrière l'oreille. L'arôme du café qui flotte dans la maison. Le perroquet qui imite la voix de papa. Le bruit du balai qui gratte le sol dans la cour d'à côté. La radio qui hurle dans le voisinage. Le margouilla aux couleurs vives qui prend son bain de soleil. La colonne de fourmis qui emporte les grains de sucre qu'Anna a fait tomber de la table. Un matin comme un autre. Pourtant, c'était une journée historique. Partout dans le pays, les gens s'apprêtaient à voter pour la première fois. Ce que j'aime, c'est exactement la phrase de Jean Hatzfeld sur la quatrième de couverture. Gaël Faye raconte formidablement bien. Il m'est très facile d'imaginer ce Gabriel dans son petit pays, tant les descriptions nous font nous immiscer dans le paysage. Le champ lexical de la nature et des animaux sont très présents et nous embarquent dans un flot d'images imaginaires, mais très réalistes. Il y a certains mots que je ne connais pas, mais il n'est pas forcément utile de les connaître pour suivre et imaginer ce que peut être le quotidien de ce garçon. On imagine très bien l'atmosphère et le décor de son enfance. Alors même que je ne connais pas du tout le Burundi et que j'ai certainement une idée fantasmagorique de l'Afrique qui appartient à notre inconscient collectif. Dans le récit, on sent que Gabriel vit autant dehors que dedans. Les animaux sont en liberté, mis à part le perroquet de la maison. Des oies passent en file indienne dans la cour. La nature est luxuriante. L'humain, les animaux et la nature ont l'air de vivre dans une certaine harmonie. J'ai reparcouru cette première partie du livre et reviens sur ce champ lexical de la nature qui me frappe. Lac, colline, immense plaine verte, eau ocre du fleuve Russisi, montagne, vent chaud. Le champ lexical des animaux me frappe également. Loin de nos animaux domestiques européens, on se balade dans ce roman entouré d'animaux d'Afrique. Colibri vert, couple de grues, crocodile, babouin, python de Séba, saurien. Enfin, ce qui me frappe est la présence de nombreux arbres fruitiers et de la nourriture qui pousse dans la terre, mais aussi souvent des fruits poussant dans les arbres, dont les enfants jouent à aller en cueillir, quitte à en voler dans le voisinage. Citronniers, goyaviers, bananiers, avocatiers, grévilléas, palmiers, sorgho, mangue, bananes flambées. J'imagine un village où les jardins et le paysage sont remplis d'arbres, de plantes en pleine floraison, de fruits juteux où la végétation est présente autant que les habitations. Je me demande quel champ lexical ressortirait si un enfant de 10 ans européen décrivait son environnement. Que voit-il lorsqu'il sort de chez lui? Du goudron? Saurait-il donner le nom des arbres? Il y a Maxence, qui a aussi 10 ans, qui a bien voulu répondre avec sa maman à mon interrogation.
Je vois, en sortant de chez moi, de la nature, des arbres, des maisons, des immeubles, une église, la route et des voitures.
Est-ce qu'il y a une couleur que tu vois le plus?
Oui, la couleur que je vois le plus, c'est le gris.
Si Maxence, en France, voit du gris, quand je lis « Petit pays », j'imagine une dominance de brun et des nuages de poussière volés sous les chaussures de Gabriel. Évidemment, il parle aussi de la ville, de véhicules et de maisons. Mais je voulais revenir sur l'omniprésence de la nature qui peut manquer à nos vies dans les villes françaises grisées. Dans cette première partie, j'ai été touchée par la profondeur que commencent déjà à avoir les pensées de ce jeune garçon. Les questionnements et sentiments de Gabriel, peu importe où il aurait grandi, sont universels. Il se questionne à propos de la religion. Il vit le premier déséquilibre qui nous fait quitter l'enfance lors du vol de son vélo. Ces sentiments qui s'entremêlent où il est difficile de trouver une justice. Il se questionne sur le divorce de ses parents, qui l'amène à réfléchir pour la première fois sur la vie de ses propres amis, après une après-midi à jouer, une fois la porte de la maison refermée derrière eux. Bientôt, ce serait la fin de mon anniversaire. Je profitais de cette minute avant la pluie, de ce moment de bonheur suspendu où la musique accouplait nos cœurs, comblait le vide entre nous, célébrait l'existence, l'instant, l'éternité de mes 11 ans, ici, sous le ficus cathédral de mon enfance. Et je savais alors, au plus profond de moi, que la vie finirait par s'arranger. Une pause s'impose dans ce récit, puisque j'ai arrêté ma lecture là, pendant un long moment. Je savais que la suite allait basculer, d'un moment à un autre. Je funambulais de chapitre en chapitre, fébrile, page après page, ne voulant pas voir comment cette enfance serait meurtrie. Alors, avant d'arriver dans l'horreur, j'ai stoppé ma lecture. J'ai continué à emmener ce roman avec moi. Mais je ne l'ouvrai plus, préférant m'éloigner encore un peu de la suite de l'histoire de cet enfant auquel je m'étais déjà beaucoup attachée. J'ai repris ma lecture une après-midi, 2 mois après. Je me donnais comme consigne de le finir d'une traite, de m'y plonger entièrement, une bonne fois pour toutes, de ne pas me laisser polluer par l'écran de téléphone et le scrollage infini. J'allais rentrer dans le dur. J'allais rencontrer ce qui se cache derrière les mots de la 4e de couverture qui m'interpelle autant qu'il me terrifie. Violence, drame, déchirant, fureur du destin, hantise commune. J'allais droit dedans. J'aurais voulu prendre par la main cet enfant et l'accompagner dans ce passé sinistre. Et effectivement, j'entrais dans le vif du sujet. La guerre est là, lointaine, grondante, puis petit à petit, s'immisce dans la vie de nos personnages. Puis vint, plus que la guerre, le génocide. Je lis rapidement, furtivement, essayant de passer vite de page en page, comme pour éviter de faire endurer trop longtemps à Gabi le fait de revivre ses souvenirs en les couchant sur le papier. Je n'y connais rien à la guerre. Je ne comprends pas plus celle-ci. J'ai la sensation que tout le monde s'entretue sans raison, les gentils, les méchants mélangés, alors que Gabi a bien expliqué tout ce qui a amené à ça. Mais je ne peux pas le comprendre. Mon cerveau n'arrive pas à assimiler comment on en arrive là, à jouer à qui abattra l'autre en premier. Gabi lui-même le dit. Il n'y a rien à comprendre. C'est un nouveau champ lexical qui en parle les pages, celui de la guerre et de l'horreur. Massacre, mort, cadavre, insécurité, tuerie, revolver, kalachnikov, mitraillette, supprimé, exécuté, assassiné, haine, génocide, charnier, balle perdue, calciné. Gabi et sa famille doivent s'enfermer pour se protéger en faisant l'expérience des journées de ville morte. Ils suivent les consignes du gouvernement. La tension ambiante rend chacun nerveux, haineux, sur ses gardes. Ce n'est plus une enfance, mais une survie. Sa bande d'amis se disloque. Gabi ne les reconnaît plus. Lui, profondément justicier, et eux, jouant aux adultes. « Tu as vu ce qu'ils ont fait à nos familles au Rwanda, Gabi ?» a repris Gino. « Si on ne se protège pas, c'est eux qui vont nous tuer, comme ils ont tué ma mère !» Francis envoyait des rondes de fumée au-dessus de nos têtes. Armand a arrêté de faire le pitre. J'aurais voulu dire à Gino qu'il se trompait, qu'il généralisait, que si on se vengeait à chaque fois, la guerre serait sans fin. Mais j'étais perturbée par ce qu'il venait de révéler sur sa mère. Je me disais que son chagrin était plus fort que sa raison. La souffrance est un joker dans le jeu de la discussion. Elle couche tous les autres arguments sur son passage. En un sens, elle est injuste. La souffrance est un joker dans le jeu de la discussion. Gabi trouve du réconfort dans les livres et y trouve un endroit pour fuir de sa réalité. Jusqu'à ce que la folie entre dans sa maison et le meurtre dans son impasse. Dans cette deuxième partie du roman, j'ai définitivement quitté l'enfant. Lui et ses amis ont grandi d'un coup, abîmés par la violence, la mort à leur porte. N'importe qui peut tuer, à tout moment, sans que ce soit un événement. Gabi garde en lui l'imagination, un peu d'espoir et des rêves. Oui, c'est un livre difficile. Oui, j'ai eu des larmes. Oui, mes tripes se sont soulevées. Oui, j'ai tremblé. J'ai fermé le livre et j'ai eu besoin de faire quelque chose de mes mains et de m'occuper rapidement. Même écrire sur cette deuxième partie, je l'ai fait furtivement, d'une traite, et j'ai beau le relire, je n'ai rien de plus à ajouter ou à modifier. Mais alors, ce roman ? Il est furieusement nécessaire. Ni l'empathie, ni la pitié, ni même la colère, ce ne sont pas des mots que je ressens ni que je choisis. Parce que ce que j'ai lu, c'est notre réalité, c'est notre histoire. Elle se doit d'être témoignée. Elle est d'autant plus violente de la lire à travers les yeux d'un enfant. Je ne sais pas à quel point ce roman est autobiographique pour Gaëlle Faye. J'évite de faire des recherches pour ne pas que ma réaction suite à cette lecture soit influencée par diverses autres critiques. Depuis, j'ai écouté un peu mieux ce que fait Gaël en solo. Depuis, il a même sorti un deuxième roman, L'ennui des après-midi sans fin. Et je l'ai vu rapidement parler dans des interviews de l'importance de s'ennuyer lorsqu'on est enfant. Je le lirai également. Car, effectivement, Gaël Faye nous fait rentrer dans un univers comme d'autres n'y étaient pas parvenus jusqu'à présent. Merci.
Quand tu pleures, quand tu pleures, je pleure, quand tu ris, je ris, quand tu meurs, je meurs, quand tu vis, je vis. Petit pays, je saigne de tes blessures. Petit pays, je t'aime, ça j'en suis sûr.
Je suis très émue de clôturer cet épisode. J'ai hésité en fait à le poster parce que j'ai mis beaucoup de temps à écrire ce texte avec de longues pauses entre chaque partie. Et comme je le dis plus tôt, j'ai tenté de ne rien regarder de ce qui avait pu être écrit avant moi autour de ce livre. Sinon, je n'oserais jamais donner mon ressenti. Mais dernièrement, j'ai quand même cherché quelques petites informations autour de ce livre, de peur de dire des bêtises, et en m'apercevant aussi que Gaël Faye avait beaucoup de succès dans sa musique. J'étais aussi impressionnée de traiter à propos d'un livre archi-primé, et j'avais peur de parler de sujets que je ne maîtrise pas. Je connais si peu cet auteur, et encore moins l'Afrique, la politique et la guerre. J'ai appris que Petit Pays a été adapté au théâtre. Je serais très curieuse de voir ça et également qu'il y a une adaptation cinématographique. Maintenant que j'ai fini d'écrire ce texte, je vais pouvoir regarder tout ça de plus près. J'ai beaucoup de choses à apprendre de cet artiste que je découvre à peine. J'espère que cet épisode t'aura plu. Je remercie Lucie, Maxence et Nico pour leur aide et leur participation à cet épisode. Tu peux me retrouver sur Instagram et Facebook sur le compte La Joie de Camille pour y découvrir les coulisses du podcast en attendant le prochain épisode. Je peux déjà annoncer que le mois prochain, je sortirai un épisode où je serai à nouveau accompagnée pour parler de comédie musicale. C'est une de mes passions que je partage avec une amie qui a enregistré avec moi. C'était un super moment et j'ai hâte de te le partager. Je te souhaite une bonne journée et à bientôt.